Chapitre 31. Enfin, la voiture arriva. Elle arriva sans faire de bruit, car les roues étaient faites d'étoupe et de chiffon. Elle était traînée par 12 paires de petits ânes, tous de même taille, mais de robes différentes. Les uns étaient gris, d'autres blancs, d'autres tachetés noirs et blancs, comme poivre et sel, et d'autres zébrés de jaune et de bleu. Mais le plus singulier, c'est que ces 12 paires d'ânes, c'est-à-dire ces 24 ânes, au lieu d'être ferrés comme les autres bêtes de somme, portaient aux pieds des chaussures d'hommes faites en peau blanche. Et le conducteur de la voiture, figurez-vous, un petit homme, plus gros que grand, onctueux et bouffi comme une motte de beurre, avec un petit visage de miel et de rose, une petite bouche qui riait toujours, et une voix douce et caressante comme celle d'un chat qui se recommande au bon cœur de la maîtresse de la maison. Dès que les enfants l'apercevaient, ils en devenaient amoureux et se battaient pour monter dans sa voiture, pour être conduits par lui dans ce véritable pays de cocagne désigné sur la carte de géographie sous le nom séduisant de « Pays des jouets ». La voiture était déjà toute pleine d'enfants de 8 à 12 ans, amoncelés les uns sur les autres comme des anchois dans la saumure. Ils étaient très mal à l'aise et empilés au point qu'ils pouvaient à peine respirer. Mais personne ne se plaignait, personne ne se lamentait. La consolation de songer qu'ils arriveraient dans quelques heures, en un pays où il n'y avait ni livre, ni école, ni maître, les rendait si contents, si résignés, qu'ils ne sentaient ni les malaises, ni les secousses, ni la soif, ni le sommeil. À peine la voiture se fut-elle arrêtée, que le petit homme se tourna vers Lumignon et, avec des grimaces alléchantes, lui dit « Dis-moi, mon bel enfant, veux-tu venir aussi dans cet admirable pays ?»«
Assurément, je veux y aller. »«
Mais je t'avertis, mon chéri, il n'y a plus de place dans la voiture, c'est complet, comme tu vois. »«
Qu'importe, » dit Lumignon. « S'il n'y a pas de place à l'intérieur, je m'accommoderai des brancards. »
Là-dessus, il fit un bond et monta à cheval sur un brancard. « Et toi, mon amour, » dit le petit homme en s'adressant avec toute sa gentillesse à Pinocchio, « que comptes-tu faire? Viens-tu ou restes-tu ?»«
Je reste, » répondit Pinocchio. « Je vais retourner à la maison. Je veux étudier et faire honneur à mon école, comme c'est le devoir de tous les bons petits garçons. »«
Grand bien te fasse !»
« Pinocchio, » dit alors Lumignon, « écoute-moi. Viens avec nous. Nous nous amuserons bien. »«
Non, non et non. »«
Viens avec nous et nous nous amuserons bien !» crièrent d'abord quelques voix de l'intérieur de la voiture. « Viens avec nous et nous nous amuserons bien !» hurlèrent ensemble une centaine de voix.
« Et si je vais avec vous, que dira ma bonne fée ?»
dit le pantin qui commençait à se laisser émouvoir et à hésiter.
« Ne te fais pas tant de bile. Songe que nous allons dans un pays où nous pourrons, du matin au soir, faire tout le tapage que nous voudrons. »
Pinocchio ne répondit pas, mais il poussa un soupir, puis un second soupir, puis un troisième soupir. Et finalement, il dit
« Faites-moi un peu de place, je vais avec vous. »«
Les places sont toutes prises, » répliqua le petit homme. « Mais pour te montrer comme tu es le bienvenu, je puis te céder ma place sur le siège. »«
Et vous ?»«
Moi, je ferai la route à pied. »«
Non, je ne le permettrai pas. Je préfère monter en croupe sur l'un de ces baudets, » s'écria Pinocchio.
Aussitôt, Pinocchio s'approcha du premier et se disposa à l'enfourcher. Mais l'animal, en se retournant brusquement, lui envoya une belle ruade qui l'envoya promener les jambes en l'air. Tous les petits garnements poussèrent un éclat de rire impertinent et grossier. Seul le petit homme ne rit pas. Il s'approcha plein de sollicitude du petit âne rebelle et, feignant de l'embrasser, il lui arracha d'un coup de dent la moitié de l'oreille droite. Pinocchio se releva furieux et sauta sur la croupe du pauvre animal. Il sauta si bien que les enfants cessèrent de rire pour s'écrier « Vive Pinocchio !» et applaudir à tout rompre. Mais voici que l'âne leva à l'improviste ses deux jambes de derrière et donna de nouveau une si forte ruade qu'il envoya le pauvre pantin rouler sur un tas de cailloux qui était au bord du chemin. De nouveau, les rires recommencèrent. Mais au lieu de rire, le petit homme se sentit pris d'une telle tendresse pour le petit âne impatient que d'un baiser, il lui arracha net l'autre moitié de l'oreille droite. Puis il dit à Pinocchio,
« Maintenant remonte à cheval et n'aie pas peur. Ce petit âne avait quelques caprices dans l'esprit, mais je lui ai dit à l'oreille deux mots qui ont dû, j'espère, le rendre doux et raisonnable. »
Pinocchio monta et la voiture s'ébranla. Mais tandis que les ânes galopaient et que la voiture roulait sur la grande route, il sembla à Pinocchio entendre une voix docile, mais à peine intelligible, qui lui disait « Pauvre sot, tu as voulu en faire à ta guise, tu t'en repentiras. » Pinocchio, presque effrayé, regarda de ci, de là, pour savoir d'où venaient ces paroles. Il ne vit rien. Les ânes galopaient, la voiture roulait. À l'intérieur, les enfants dormaient. Le mignon ronflait comme un loir, et le petit homme, assis sur son siège, chantonnait entre ses dents « Ils dorment toute la nuit, et moi, je ne dors jamais. » Un demi-kilomètre plus loin, Pinocchio entendit encore la petite voix qui lui disait « Rappelle-toi bien, petit niais, que les enfants qui cessent d'étudier et tournent le dos aux livres, à l'école et aux maîtres, pour s'adonner entièrement aux sottises et à l'amusement, ne peuvent avoir qu'une fin malheureuse. » À ces paroles, murmurées d'un ton calme et sournois, Pinocchio s'épouvanta plus que jamais, sauta de la croupe de sa monture et prit l'âne par la bride. Quelle ne fut pas sa stupéfaction quand il constata que le petit âne pleurait. Pleurait exactement comme un enfant.
« Eh, monsieur !» cria alors Pinocchio au conducteur de la voiture. « Savez-vous ce qu'il y a de nouveau ? Ce petit âne pleure !»«
Laisse-le pleurer ! Il a bien le temps de rire !»«
Mais qui peut bien lui avoir appris à parler ?» « Est-ce vous ?»«
Non, il a appris tout seul à marmotter quelques paroles, car il a vécu pendant 3 ans en compagnie de chiens savants. »«
Pauvre bête !»«
Bah, bah !» dit l'homme. « Ne perdons pas notre temps à regarder pleurer un âne. Remonte en croupe et allons-nous-en. La nuit est fraîche et la route est longue. »
Pinocchio obéit sans souffler mot. La voiture reprit sa course et le lendemain matin, à l'aube, on arriva sans encombre au pays des jouets. Ce pays ne ressemblait à aucun autre pays du monde. Toute la population était composée d'enfants. Les plus vieux avaient 14 ans. Les plus jeunes en avaient à peine 8. Dans les rues, une joie, un vacarme, un tintamarre à rendre fou. Partout, c'était des bandes de mauvais drôles. Les uns lançaient des flèches avec des arbalètes, d'autres jouaient au palais, d'autres à la balle, les uns allaient à bicyclette, les autres sur des chevaux de bois, d'autres jouaient à colamaillard. Quelques-uns faisaient la course, d'autres, habillés en paillasse, mangeaient de l'étoupe enflammée, d'autres récitaient, chantaient, faisaient des sauts périlleux ou s'amusaient à marcher sur les mains, les jambes en l'air. Il en était qui jouaient au cerceau, tandis que d'autres se promenaient, vêtus en généraux, avec un chapeau de papier, à la tête d'un escadron de carton. Les uns riaient, hurlaient, appelaient, battaient des mains, sifflaient. D'autres s'essayaient à chanter comme la poule qui vient de pondre. C'était un tel tapage, un tel enfer, une telle bacchanale endiablée qu'il aurait fallu se mettre du coton dans les oreilles pour ne pas devenir sourd. Sur toutes les places, on voyait de petits théâtres en planches remplis d'enfants du matin au soir. Sur les murs des maisons, on lisait partout des inscriptions au charbon avec plein de fautes d'orthographe dans le genre de celle-ci. « Vive les jouets ! Nous voulons plus d'école ! Abat la ride métique !» Dès qu'ils furent entrés dans la ville, Pinocchio, Lumignon et tous leurs compagnons de voiture se mêlèrent vite à la foule. En quelques instants, on fit connaissance, l'on devint amis. La joie était générale. En promenade continuelle et en divertissements variés, les heures, les jours et les semaines passaient avec une rapidité insaisissable. « Ah, quelle belle existence !» disait Pinocchio à Lumignon chaque fois que, par hasard, ils se rencontraient.
« Tu vois donc que j'avais bien raison, » répliquait ce dernier, « et dire que tu ne voulais pas partir, et quand je pense que tu t'étais mis dans la tête de retourner chez la fée pour prendre ton temps à étudier. Si tu es aujourd'hui délivré de l'ennui des livres et de l'école, c'est à moi que tu le dois, à mes conseils, à mon assistance, conviens-en. N'y a-t-il pas que les vrais amis qui sachent se rendre de tels services ?»«
C'est vrai, Lumignon. Si je suis aujourd'hui vraiment heureux, tout le mérite en est à toi. Eh bien, sais-tu ce que le maître me disait toujours en parlant de toi ? Ne fréquente pas ce fripon de Lumignon, car Lumignon est un mauvais camarade. Il ne peut que te conseiller de faire le mal. »
Pauvre maître, répliqua l'autre en hochant la tête. Je ne sais que trop qu'il m'avait pris en grippe et qu'il se plaisait à me calomnier, mais je suis généreux et je lui pardonne.
Tu es un bon garçon, dit Pinocchio en se jetant affectueusement dans les bras de son ami et en lui donnant un baiser sur le front.
Il y avait déjà 5 mois que durait cette vie de cocagne, toute de bonnes parties et de divertissements à longue journée, sans qu'il fût jamais question de livres ni d'école. Mais un beau matin, Pinocchio, en se réveillant, eut une très mauvaise surprise qui le mit, avec raison, de bien mauvaise humeur.